Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui consacrée à une rencontre exceptionnelle. En effet, nous sommes en compagnie de Jean-Claude Penthier, pianiste que tout mélomane connaît et admire, mais aussi prêtre orthodoxe depuis 13 ans maintenant, recteur de la paroisse de la Protection de la Mère de Dieu à Chartres. Pour commencer, avant de discuter avec le Père Jean-Claude de son cheminement spirituel à travers la musique et la foi, écoutons-le dans un extrait de la sonate Fantaisie en sol majeur, Deutsch 894 de Schubert. Jean-Claude Penthier, une interprétation musicale est-elle une profession de foi ?
Non, elle est quelque chose qui est, je pense, en deçà, mais qui est en même temps de l'ordre, surtout cette œuvre-là. Cette œuvre a ce thème extraordinaire qui est une convocation à être présent, à être là, à être attentif, à être sans artifice, être nous-mêmes, dénué de, je dirais, de tout mensonge. Cette œuvre ne peut s'écouter et s'apprécier que dans une sorte de nudité, de vérité. Et en cela, naturellement, elle rejoint non pas une profession de foi, mais d'un état qui est proche de la prière, qui est, à mes yeux, être nu devant Dieu.
Après ce dépouillement total donc imposé par Schubert, venons-en à votre propre vie et cheminement. Vous êtes pianiste depuis toujours, je dirais. Et puis, à un moment donné de votre vie, vous avez voulu devenir prêtre aussi. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ces étapes, si vous voulez, et s'il y a un rapport déjà entre elles. Déjà, est-ce que vous vous souvenez de vous sans la musique ? Où elle est dans votre vie depuis que vous existez ?
Elle a été très tôt avec moi, mais puisque vous parlez de quelle liaison il y a eu entre ma vie de foi et ma vie de musicien, la vie de foi a précédé, parce qu'elle remonte à très très loin. J'ai un souvenir extrêmement fort qui date, d'après les regroupements que je fais, du Noël de mes 3 ans. Et là, j'ai un souvenir très très vif. C'était pour Noël, dans une église, naturellement, qui, comme dans ces temps-là, était pleine, mais archi pleine. Il faisait terriblement froid. Les églises catholiques n'étaient pas chauffés, tout le monde emmitouflé, des gros manteaux, des cache-nez, des tout ça. Et il y avait un jeune prêtre qui était nouveau dans cette paroisse à Châtellerault et qui avait été invité à prêcher pour Noël. Et je me souviens très très bien du thème de son prêche et qui était si vous réalisiez ce qu'est Noël, de quelle nouvelle c'est Noël, mais vous ne resteriez pas sur vos chaises comme vous l'êtes, mais vous vous lèveriez et vous sauteriez et vous danseriez. Et je me souviens juste de ce thème-là et j'en ai été très très impressionné parce que c'était associé, ce qui est de la foi, à une vitalité formidable. Et au fond, toute ma vie, j'ai été, et de plus en plus, je dirais même, que ce qui relie, pas ma vie intérieure spirituelle, mais quel exercice j'ai du point de vue prêtrise avec ma vie de pianiste, c'est que je suis dans deux domaines où les gens peuvent penser qu'on est dans un monde un peu compassé, un peu pour des personnes plus âgées, enfin que c'est pour une élite, une sorte de personne, alors que dans les deux, il y a un message de vie formidable. Et ce que le Christ dit, je veux qu'ils aient la vie en abondance. Voilà. Et pour moi, ça s'origine, mais très très nettement, dans cette première homélie que j'ai entendue alors que j'étais enfant. Et qui après, musicalement, s'est traduite pour mon amour pour la musique de Bach, le Bach rythmique, qui a cette espèce de swing incroyable et qui est cette danse de l'esprit.
Le temps de la radio nous impose d'aller vite, mais on va suivre quand même le chemin que vous avez indiqué par des musiques que vous avez choisies. Et nous passons de Noël à Pâques, ou la préparation de Pâques. Donc un disque que vous venez d'enregistrer, Liszt, Via Crucis. On entend un extrait, Jésus tombe, et puis un Stabat Mater qui lui est chanté en latin avec le piano. C'est une composition assez particulière. Alors, on va l'entendre d'abord, et puis je voudrais un commentaire sur la musique, sur Liszt aussi, qui est un personnage extraordinaire. Donc, c'est vous qui chantez, et c'est l'ensemble Vox Clamantis, dirigé par Jean-Nic Tulve. Liszt donc, Via Crucis, Jean-Claude Penthier, ensemble Vox Clamantis, dirigé par Jean-Nic Tulve, un ensemble estonien. Père Jean-Claude, un commentaire sur cette œuvre déjà.
Alors l'œuvre est incroyable, parce qu'on connaît Liszt naturellement par sa musique extrêmement virtuose, par sa musique très très généreuse, très avec avec plein d'emphase, mais dans le bon sens du mot. Mais Liszt saura peu à peu, face à certains sujets, se dépouiller. Et je trouve beau que cet homme qui a été en même temps un homme de spectacle, mais un homme de pensée, un homme avec sûrement un moi très 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 généreux, mais très envahissant aussi, mais qui a été un interprète pour tous ses contemporains. Je trouve toutes ces dualités extrêmement riches, et naturellement c'est une personne que j'aime beaucoup. Alors l'œuvre est une méditation sur le chemin de croix, et naturellement cette vie qui m'avait frappé depuis longtemps, cette joie de l'esprit, cette danse qu'il y a dans la musique de Bach par exemple, elle n'a toute sa valeur que la joie de Pâques ne peut pas être séparée du Vendredi Saint. Et c'est quand on veut opposer une certaine orthodoxie qui serait plus pascale et un catholicisme qui serait plus sur le dolorisme, je trouve que c'est artificiel et que notre foi véritable est de tenir ensemble ces deux choses, la mort sur la croix et la joie de la résurrection.
Nous revenons à votre propre cheminement. Vous avez parlé de votre première rencontre avec la foi et de cette homélie que vous avez frappée lors d'une liturgie de Noël dans une cathédrale catholique. Vous êtes actuellement prêtre orthodoxe, alors il faut faire le lien.
Ce lien, il s'est fait sans que j'y mette beaucoup de volonté, si j'ose dire. Dieu se sert de tous les moyens pour nous placer là où il le souhaite. Et je suis devenu orthodoxe sans réaliser quel bouleversement complet ça allait être dans toute ma vie. Je l'ai réalisé le jour même de la chrismation, mais je ne m'y attendais pas. Voilà, c'est tombé sur moi, et là je me suis dit, je suis arrivé au port où il fallait que j'arrive. Peut-être pas conscient que c'était un port qui n'était là que pour l'être, au premier pas pour une grande traversée. Je n'y voyais que le havre de repos.
Vous êtes responsable recteur d'une paroisse qui est dédiée à la Mère de Dieu, et vous avez choisi comme musique suivante une paraclisis, donc une prière à la Mère de Dieu, qui est chantée par deux protopsaltes, l'un chante en roumain, l'autre est syrien et chante en arabe. Donc, on va peut-être entendre cette prière, on rentre dans l'église maintenant directement, dans l'église orthodoxe, et puis on va voir le commentaire de la musique et aussi de cette osmose entre les orthodoxes d'origine diverse qui se retrouvent quand même dans la même prière où on voit les langues venir prier ensemble la Mère de Dieu. C'est donc le début de la petite paraclisis à la Mère de Dieu.
Yeah.
Extrait de la petite paraclysis de la mère de Dieu, à la mère de Dieu plutôt, par deux chantres. L'un chante en roumain, l'autre chante en arabe. Il est syrien. Vous avez une paroisse qui relève de la métropole du patriarcat de Roumanie, mais parmi vos fidèles, il y a aussi des personnes qui ne sont pas d'origine roumaine, ce qui montre justement que dans l'Église, heureusement, je dirais, ce n'est pas le côté ethnique qui prime. Et donc vous le vivez, puisque dans votre paroisse, vous avez aussi des fidèles qui ne sont pas tous de la même origine. Un commentaire sur cette musique et aussi sur le fait justement d'avoir des chrétiens qui sont d'origines diverses et qui prient en eux-mêmes dans des langues différentes.
Oui, j'ai choisi ce moment de la petite paraclysis un peu en hommage à ceux qui actuellement sont persécutés dans des pays où les chrétiens sont minoritaires, et ces gens sont d'un courage extraordinaire. Et on a cette chance de accueillir dans notre paroisse quelques Syriens qui témoignent de leur fidélité et de l'universalité de l'orthodoxie. Et en plus, je trouve extrêmement émouvant que on entend très très bien deux styles, si je veux dire, bien que c'est dans une même tradition de chant liturgique, mais entre le protopsalte roumain et le protopsalte syrien, l'un est plus ornementé et l'autre un peu moins. Et puis il y a cette dévotion à la Vierge qui naturellement est pour moi est quelque chose de assez fondamental, et ces voix qui s'élèvent avec cette dévotion à la fois, je dirais, amoureuse et vraiment respectueuse, ce chaste amour à la Vierge est tellement bien dit et bien porté par ces deux chants que je trouve ça d'une beauté exemplaire.
Je reviens à votre propre expérience. Bon, vous avez l'expérience du musicien, bien sûr, de l'interprète, de l'artiste. Celle du fidèle, vous en avez parlé, et celle du prêtre. Alors, y a-t-il une espèce de, je ne sais pas, de grade, de graduation entre celle du fidèle, celle du prêtre? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que le prêtre prie aussi en fidèle? Quel est le rapport qui s'établit entre ces deux qualités?
Je crois qu'il est honnête de dire que le prêtre ne peut plus prier en fidèle, sauf s'il va dans un lieu où il ne concélèbre pas, mais il renonce à quelque chose. Et un fidèle peut se laisser, se laisser porter par l'œuvre commune, cette liturgie qui veut dire œuvre du peuple, en fait. Mais le prêtre a un autre rôle, et quand on en prend conscience, il y a cette expression de prêtre indigne qui peut sembler une espèce de formule un petit peu convenue, comme ça, voilà, je suis indigne, je suis un prêtre indigne. En fait, c'est une réalité qui est de plus en plus présente et de plus en plus forte, et qui ne se résout que dans le fait que nous sommes que les mains de Dieu qui agit dans la liturgie. Nous ne sommes que ces mains humaines que nous lui offrons, que nous lui prêtons, si j'ose dire, pour l'œuvre qu'il accomplit. Et donc, ça, on ne peut plus être fidèle une fois que l'on est prêtre. Et je pense que vouloir l'être, ce serait une régression et vouloir un peu profiter de l'un et de l'autre.
Écoutez, merci beaucoup. Juste un petit mot, je vais vous demander pour la musique qui va clore cette première émission, qui est un extrait d'un concerto de Mozart, le concerto en do majeur, Köchel 467, son mouvement lent qui est célèbre, évidemment, parce que cette mélodie est absolument divine, il faut le dire. Un mot peut-être sur cette force de la musique, avec Mozart, on le voit aussi dans sa forme la plus simple, de parler aussi, comme la prière peut le faire, directement à l'homme, à celui qui l'écoute vraiment.
Oui, un mouvement comme celui, comme celui-là, et qui est un tube. Bon, c'est un des grands tubes de la musique de Mozart. C'est une musique qui, quand on se donne à elle, qui nous rend clair. Elle nous purifie et elle nous fait entrevoir ce qui est des étoiles. Bon, c'est Mozart qui a ce don particulier. Schubert nous parle de nos joies humaines, de nos souffrances, de nos douleurs. Mozart, qui peut le faire aussi extrêmement bien et fortement, a ce don particulier de ouvrir un ciel étoilé et de nous rendre à une espèce de spontanéité de l'émerveillement.
Nous allons nous quitter pour cette première émission, donc Foi et musique, en compagnie de Jean-Claude Pelletier, avec ce splendide deuxième mouvement du concerto en do majeur, Köchel 467 de Mozart, interprété par Jean-Claude Pelletier et l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Christophe Poppen. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Laetitia Coya. Prise de son, Stéphane Desmonts. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Michel Schaeffer pour le service protestant.